Loïc Tassé, politologue, chroniqueur. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, le nouveau gouvernement italien qui déjà met en œuvre sa politique anti-immigration.
Oui, c'est Matteo Salvini qui fait ça, retiens ce nom. C'est le ministre de l'Intérieur, mais c'est surtout le président de la Ligue, qui est ce parti d'extrême droite du nord de l'Italie. Et alors, il vient de faire une déclaration en disant, écoutez, l'Italie ne sera plus, je cite, un camp de réfugiés. La fête est finie. L'Italie a été abandonnée par ses alliés européens. Eh bien, nous allons désormais nous organiser pour que les immigrants ne viennent plus en Italie. Nous allons renvoyer chez eux les immigrants. C'est vrai que depuis 2014, ils ont reçu 600 000 immigrants qui sont venus principalement d'Afrique.
De quel endroit en Afrique? Est-ce que c'est d'Afrique du Nord?
Ils viennent un peu partout en
Libye,
Afrique.
Libye, hein?
Ils viennent de Libye, mais en fait, c'est beaucoup des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne.
Ah oui, hein?
Et donc, qui passent par différentes routes à travers le Sahara.
Ils arrivent en Sicile, hein? C'est bien ça?
Ils arrivent en Sicile, en passant principalement par la Libye.
D'ailleurs, c'est pas lui qui devait se rendre là, en Sicile, le Salvini, pour dire...
Oui.
Là, la fête est terminée.
C'est là qu'il a fait la déclaration.
C'est là qu'il a fait la déclaration.
Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde suit ça en disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Comment est-ce?
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va les refouler.
Il va les refouler. Il veut aussi qu'on ferme des camps. Il va avoir des politiques très très dures face aux immigrants. Il n'a pas encore déclaré exactement ce que seraient ces politiques, mais tu peux être sûr que l'Europe entière, si c'est pas le monde entier, est en train de suivre ce qui va arriver en Italie avec ce problème des immigrants. Parce que le problème n'est pas prêt de se résorber. Tu sais, l'Europe est en déficit de natalité. Il y a une très faible natalité en Europe, alors qu'en Afrique, la natalité explose.
Ouais.
Et il y a de la pauvreté. Les gens montent vers l'Europe en pensant pouvoir trouver un travail.
Trouver une vie meilleure.
Exactement.
Trouver une vie meilleure. Donc, ça va être à suivre ce qui va se passer en Italie.
Absolument.
Très bien. Parlons vite, pas tant que ça, là. Prenons le temps de bien faire les choses. Cette décision, donc, des tribunaux, c'est la Cour suprême, enfin, hein, aux États-Unis, qui a décidé que les droits religieux avaient préséance?
Oui, sur tous les autres droits, par 7-2. Je te rappelle, tu sais, tu viens de te dire cette histoire-là, c'est un pâtissier qui avait refusé de fabriquer un gâteau d'anniversaire pour un couple gay. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Oui, je me rappelle, bien sûr.
Ah ben voilà. Alors, la Cour a jugé
Le couple avait porté cette décision du pâtissier devant les tribunaux.
Devant les tribunaux.
C'est monté jusqu'à la Cour suprême.
Et la Cour suprême a dit, le pâtissier avait raison.
Il avait raison?
Oui.
Ben alors, pourquoi est-ce que tu conclus que c'est les droits religieux qui ont préséance? Il a refusé de leur donner...
Le pâtissier avait raison. Il voulait pas faire le gâteau pour les
convictions. Au nom de ses convictions religieuses.
Ah. Et donc, les convictions religieuses donc passent avant les droits des citoyens, les droits de tous les citoyens. Tu sais, ça soumet la liberté individuelle, donc, aux valeurs religieuses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait déjà eu, en 2014, une affaire un peu similaire. C'était l'affaire Hobby Lobby. C'était une entreprise américaine de fourniture artistique qui emploie 13 000 employés, qui s'était vue accorder le droit, si tu veux, de ne pas payer pour ses employés les frais à des programmes de contraception, pour des motifs religieux aussi.
Et ils avaient gagné.
Donc la Cour suprême continue dans cette région-là. C'est très grave parce qu'en fait, elle subordonne, tu vois, les décisions des élus à celles des dirigeants d'entreprise s'il s'agit de motifs religieux.
Ouais, mais attends un peu là. Moi, je suis propriétaire, entrepreneur d'une pâtisserie. J'ai le droit de décider à qui je vais faire le gâteau ou pas. Non.
Tu n'as pas le droit de refuser un service.
C'est ce que la Cour suprême vient de dire.
La Cour suprême vient de donner raison à l'entrepreneur. Oui, elle vient de dire que tu as le droit de refuser.
Mais elle lui a donné raison sur la base de ses convictions religieuses.
Exactement.
C'est là que tu dis qu'ils sont en train d'installer l'idée que les droits religieux sont des super droits qui ont préséance sur les autres.
Surtout sur les droits individuels.
Parce que moi, j'aurais dit, l'entrepreneur a le droit de dire qui prend comme client
non,
ou pas.
Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit de refuser un client où que ce soit.
Vraiment?
Non, t'as jamais le droit de faire ça. Dans les démocraties, t'as pas le droit de faire ça. C'est le refus de vente qualifiée. T'as pas le droit de refuser de vendre.
Je dis pas qu'il devrait le faire plus parce que c'est un couple gay ou un autre.
Non.
C'est moi qui est propriétaire de mon entreprise. Je peux faire ce que je veux avec ma business.
Oui, mais t'as pas le droit de refuser de vendre un produit à quelqu'un.
Parce que ça devient une cause
de discrimination. T'as pas le droit.
Eh ben.
Si quelqu'un veut ton produit puis est prêt à payer le prix que tu demandes.
Faut que tu lui donnes.
Sinon,
ça devient de la discrimination.
C'est de la discrimination. Et c'est comme ça dans toutes les démocraties.
Ouais.
Alors, on vient de dire que la discrimination religieuse
est acceptable. OK, je comprends.
Si c'est religieux, c'est acceptable de faire de la discrimination. Mais écoute, là, c'est parce que ça veut dire que toutes les lois que les élus vont voter vont être soumises aussi éventuellement à cette discrimination
religieuse.
Donc,
à la rigueur, si on voulait résumer, on pourrait dire la discrimination anti-gay, pour suivre ton, ton logiquement, ta logique, là, ton raisonnement, la discrimination contre les homosexuels basée sur des convictions religieuses est acceptable.
C'est ça. C'est ce que la Cour suprême vient de dire.
Ouais, c'est problématique.
Et c'est pas la première fois, comme je te dis, c'est pas la première fois qu'il y a eu cette discrimination. Ils avaient dit la même chose avec la contraception en 2014.
On refuse le droit.
Et donc, ils suivent comme ça des paramètres, une logique est une logique qui est en fait antidémocratique, il faut bien le dire.
Mais qui procède surtout d'un préjugé très favorable
aux religions,
aux droits religieux. C'est on voit un peu ça. En passant, notre Cour suprême a rendu plusieurs jugements qui allaient dans ce sens-là.
Oui, parce que les cours s'influencent les unes les autres. Et la Cour suprême du Canada regarde ce que fait la Cour suprême des États-Unis.
Bien sûr. Très bien. Alors, parlons maintenant, parce qu'il nous reste très peu de temps,
oui,
de ce remaniement majeur au sein de l'armée nord-coréenne. C'est probablement l'armée dont
on la connaît le moins, mais on
la suit avec d'autant plus d'intérêt que le fameux sommet, évidemment, va avoir lieu, Trump, Kim Jong-un. Et on sait que l'armée en Corée du Nord est très puissante
politiquement, etc. Alors, on vient d'apprendre que les trois personnes les plus importantes de l'armée nord-coréenne ont été limogées et remplacé par des gens plus jeunes. Alors ça, selon des sources sud-coréennes et américaines, il s'agit du ministre de la Défense, du directeur du bureau politique de l'armée et du chef des armées. Et donc, Il est en train de se préparer au sommet, mais plus que ça, on pense que le nouveau ministre de la Défense, qui s'appelle No Kwon Chol, est quelqu'un qui serait modéré. Je le mets avec tous les guillemets parce qu'on ne sait pas. Mais et ça serait effectivement le précurseur de grands changements, tout ça à venir en Corée du Nord. On a vraiment l'impression que, tu sais, comme je te disais, le développement de l'économie semble être sa priorité. On pense que les autres dirigeants, les vieux dirigeants, ne voulaient pas ça, voulaient que l'armée garde tous ses privilèges. Eh bien, ça change. En Corée du Nord, on est en train de remplacer les leaders qui s'opposent là-dessus, semble-t-il, à Kim Jong-un.
Et ces leaders-là seraient, pour certains d'entre eux, au moins animés par une volonté de développer l'économie, d'attirer des investissements, d'augmenter le niveau de vie.
Absolument.
Bref, et si le prix à payer pour ça, c'est une hypothèse que nous émettons.
Oui.
Si le prix à payer pour obtenir une augmentation du niveau de vie, une ouverture sur le monde, plus d'investissements étrangers, un enrichissement de la population, si le prix à payer, c'est
l'affaiblissement de l'armée,
une dénucléarisation progressive,
il serait, en tout cas, l'impression, une certaine dénucléarisation, d'accord, comme ça, on va rester, il serait prêt à aller dans cette direction-là. Mais ça veut dire aussi que l'armée prendrait moins de place dans
la
société nord-coréenne. Et tu vois, toute cette hypothèse, toute cette logique qu'on développe depuis Noël, semble de plus en plus confirmée par les événements qui se suivent en ce moment en Corée du Nord.
À suivre.
Oui.
Loïc Tassé, merci.
Je te parlais de la macrodrome demain, peut-être.
La macrodrome.
Oh, la macrodrome, tu veux. Écoute, à Madrid, on va mettre des hamacs dans un parc, 40 hamacs. On appelle ça un hamacodrome. On revendique le droit à la paresse. On veut que 2030 soit l'année de la paresse. Alors, on a tendu déjà des hamacs dans un grand parc et.
Avec un bar à sieste.
Un bar à sieste. Non, ça existe déjà depuis un an.
Ah, ça existe déjà un bar à sieste.
Oui. En Espagne.
Le droit à la paresse.
Le droit à la paresse. On veut que 2030 soit l'année mondiale de la paresse.
Ouais. Je suis sceptique.
Mais c'est vrai pour les hamacs, par contre. Et on a tendu des hamacs entre les arbres.
Je suis sceptique. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Dans un instant, on vous parle, tout de suite après la pause, de ces exercices qui sont de plus en plus fréquents dans les écoles du Québec, des exercices de confinement barricadé. C'est-à-dire que les policiers vont dans les écoles et entraînent le personnel enseignant et même dans certains cas, les élèves à l'arrivée, à un moment donné, d'un homme armé, comme il y en a eu, là, il y en a eu plein de fusillades aux États-Unis, là, dans les écoles du Québec, ils se préparent à ça. Si jamais ça devait arriver, voici comment on devrait réagir. Alors, vous allez entendre un de ceux qui participent à la formation donc des enseignants et même dans certains cas des élèves dans un instant.